Bonjour et bienvenue. Alors, la source qu'on a entre les mains aujourd'hui, c'est un petit bijou. C'est le bulletin numéro 82 du Cartoclub Aveyronnais de janvier 2023.
Un bulletin pour les passionnés de cartes postales anciennes.
Exactement. Et franchement, avant même de parler du contenu, il faut saluer le travail. C'est une publication hyper soignée et on le doit à Guy Mazars, qui est à la fois rédacteur en chef et concepteur de la maquette.
C'est un vrai travail d'amoureux du patrimoine.
Ah oui, clairement. Et au milieu de tous les articles, il y en a un qui nous a littéralement happé. Le titre, c'est « Une journée millavoise d'autrefois ».
Et là, on n'est pas dans un simple article historique, c'est une machine à remonter le temps. L'auteur Pierre Costecalde y prend les cartes postales comme point de départ pour nous faire vivre une journée dans la peau de Marthe, une jeune gantière de Milhaud.
C'est tout à fait ça. On ne fait pas que regarder le passé, on y plonge. Notre but, aujourd'hui, c'est de suivre cette journée, du matin au soir, pour voir ce qu'elle nous raconte. Alors, commençons par le début, ce matin un peu mouvementé.
Ce qui est fascinant, c'est que le décor est planté en à peine quelques phrases. On découvre la famille, Marthe, son fils Antoine, 5 ans, son mari Léon.
Et son frère Victor. Et leur métier, ce n'est pas un hasard.
Ben non, pas du tout. Marthe est gantière, ce qui est l'industrie phare de Milhaud. Son mari Léon est tanneur, donc on reste dans le domaine du cuir.
Et le frère Victor travaille aux caves de Roquefort. C'est presque un cliché de l'Aveyron.
Mais c'est un cliché génial. C'est d'une habileté folle. En trois personnages, l'auteur vient de nous dresser la carte d'identité économique de toute la région.
Les laganteries, le cuir, le fromage.
Voilà, les trois piliers sont là. Incarnés par une seule famille, le décor est planté avant même que l'histoire ne commence.
Et elle commence très fort, cette histoire. Marthe est pressée, elle doit absolument livrer son travail, sa couture de gants, avant midi. Sauf que son fils...
Ah, le fameux panchourgue.
Le panchourgue, oui. Un mot savoureux pour dire qu'il est un peu pâteau. Il trébuche, il s'étale et sa blouse se couvre de...
Pégouma, de la saleté un peu grasse, poisseuse. J'adore ce vocabulaire.
C'est incroyable, non? On n'est pas du tout dans un français académique. On est plongé direct dans le parler local, dans la langue du quotidien.
Ça donne une texture, une couleur qu'un document d'archives n'aura jamais. On entend presque Marthe gronder son fils, en fait.
C'est ça. Elle lui avait bien dit que ce n'était pas le moment de trace tout léger.
C'est-à-dire de flâner, de s'amuser.
Voilà. Mais le petit Rabat, il traîne des pieds. Et là, pour imaginer la scène, il faut se représenter les rues de l'époque. On voit des cartes postales, comme celle de la maison Freyès, un cellier bourrelier. On comprend tout de suite l'ambiance.
C'est une immersion sensorielle. On imagine les bruits, l'odeur du cuir, la poussière... Et ce parler occitan qui parsème le récit, c'est un peu la bande-son de tout ça. Ça ancre l'histoire dans une réalité très populaire, très vivante.
Et cette vie, Marthe va la traverser en courant. Sa course pour livrer ses gants, ça devient une galerie de portraits. D'abord, elle passe devant la fenêtre de sa voisine. Une vieille dame que tout le monde surnomme la Calugue.
La chouette ou la folle, c'est ça, hein ?
C'est ça.
Chaque quartier a sa Calugue. C'est un archétype. La personne un peu à part, qui observe tout et sur qui tout le monde jacasse. L'auteur dit qu'elle bistaille les passants.
Qu'elle les importune, c'est parfait. Ensuite, elle arrive devant la petite épicerie de la Merlette. Le mari, Arthur, est coiffeur juste à côté. Et son salon, c'est le centre du monde.
Ah, le salon de coiffure comme agora locale.
Exactement. Il passe son temps à jouer les diplomates entre les supporters de foot de la SM et ceux du rugby et du Sporting.
C'est génial. Le coiffeur comme médiateur social, presque un gardien de la paix. Ça donne une modernité surprenante à la scène.
On l'imagine bien, oui. Et ça continue. Marthe croise Fernande, la femme du charcutier. D'habitude, elle est toujours très pimpante. Mais là, elle a l'air si rouge.
Triste, abattue.
C'est ça. On ne sait pas pourquoi, mais le mot est là. Il plante une ambiance. Plus loin, c'est le charbonnier, le visage tout noirci. Puis deux figures du quartier, Jules le forgeron et Ernest le droguiste.
Les fameux cassaillères, les chasseurs.
Exactement. Des cassards et surtout, nous dit l'auteur, des manturas.
Des grands menteurs.
De grands menteurs en train de refaire leurs exploits de chasse imaginaires. On les imagine bien devant le magasin de fourniture de chasse R. Ingle, dont on a une carte postale, ou près de la boulangerie F. Affre.
C'est l'histoire universelle du poisson gros comme ça. Mais le fait d'utiliser le mot local, manturas, ça rend la scène plus chaleureuse, plus authentique.
Complètement.
En fait, chaque rencontre tisse la mosaïque de la vie de quartier. On y voit les ragots, d'ailleurs il utilise le verbe cancanège.
Oui.
La solidarité, les rivalités, les figures hautes en couleur, c'est un véritable écosystème social où tout le monde se connaît.
Même le menuisier, Hippolyte, Adroit à sa description, on nous dit qu'il a un bon dabalado.
Ce qui veut dire...
qu'il a une bonne descente, qu'il aime bien boire un coup, mais comme c'est un bon ouvrier, on lui pardonne. C'est la tolérance de la petite communauté.
Mais ça soulève une question tout ça. On parle de scènes très, très vivantes, pleines de mouvements, mais la source de tout, ce sont des cartes postales, des images figées où les gens posent. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre?
C'est là tout le talent de l'auteur. Il ne se contente pas de décrire l'image. Il imagine ce qui se passe juste avant, juste après, ou même hors champ.
Il utilise l'image comme un tremplin pour l'imagination.
C'est exactement ça. La carte postale de la boulangerie à frais, par exemple, elle ne montre pas de chasseur en train de mentir, mais elle crée le décor parfait, le stage set, comme on dirait, pour que notre imagination, guidée par Pierre Costecalde, puisse les y placer.
Il insuffle la vie, le son, le mouvement qui manque à la photo. C'est un travail de romancier sur un support d'historien.
Et cette vie, elle explose quand Marthe arrive enfin sur la place du marché. Là, l'auteur parle d'un brouhaha continuel.
Il faut imaginer un festival de sons, d'odeurs.
Oui, les maraîchers qui vendent les légumes du bord du Tarn, les œufs, les fromages, les volailles vivantes qui caquettent dans leur cage.
C'est le cœur battant de la ville. Le marché, c'est le lieu où le monde urbain et le monde urbain se rencontrent. C'est un centre économique, bien sûr, mais c'est surtout le principal réseau social de l'époque.
Et comme on est en automne, on trouve même de la sauvagine, des grives, des lièvres. On visualise bien cette animation grâce à des cartes comme celle de la place de la mairie à Millau, qui montre cette foule. Et c'est là, au milieu de tout ça, que se joue le point culminant de sa matinée. Elle arrive enfin à la ganterie Henri Maury.
L'objectif de sa course.
Exactement. Elle dépose son paquet de gants cousus, la tension retombe, elle repart avec son salaire dans une petite enveloppe et une nouvelle commande de gants à coudre.
La roue ne s'arrête jamais.
Jamais.
Et ce détail est crucial. Le fait que Marthe soit une travailleuse à domicile, une ouvrière en chambre, comme on disait, c'est très représentatif de l'organisation du travail de l'époque. Une grande partie de la production était externalisée chez des femmes qui travaillaient depuis leur cuisine.
Entre la soupe et la lessive, quoi.
C'est ça.
Le chemin du retour est plus calme, mais tout aussi riche. Marthe entend les époux Dupont qui discutent.
Qui se disputent.
Encore et toujours. Elle sent une odeur de rabatiné, de brûlé. Et puis, elle s'arrête chez le boulanger. Pas pour du pain, mais pour récupérer son coufidou.
Le plat mijoté.
Oui, le plat qu'a mijoté toute la matinée dans le four du boulanger. Attendez, ça veut dire qu'on apportait son plat pour le faire cuire chez le boulanger? C'était une vraie pratique, hein?
Ah mais oui, absolument. C'était une forme de mutualisation de l'énergie et des services qui était incroyablement intelligente.
Le four du boulanger restait chaud pendant des heures après la cuisson du pain.
Et plutôt que de gaspiller cette chaleur...
Exactement. On l'utilisait pour cuire les plats des familles du quartier. C'est un détail formidable sur la solidarité ordinaire. C'est génial. Et juste à ce moment, le beffroi sonne midi. L'auteur décrit une marée humaine qui sort des usines. Le rythme de la ville est complètement dicté par le travail. Après le repas, on pourrait croire que Marthe souffle un peu.
Pas du tout.
Non.
Antoine retourne à l'école, Léon à l'usine et elle s'installe devant sa machine à coudre, une piquée anglaise, pour commencer la nouvelle commande.
Et là, on réalise que cette matinée trépidante, ce n'était qu'une partie de sa journée.
Si on prend un peu de recul, on voit un cycle de travail quasi ininterrompu.
Il y a le travail rémunéré pour l'usine.
Et puis il y a tout le reste, les courses, les repas, le ménage, l'enfant. C'est un témoignage très très puissant sur la condition ouvrière. Et surtout sur la double, voire triple journée des femmes.
Et le soir, ça ne s'arrange pas. La scène finale est très touchante. Le souper est fini. Antoine dort. Léon, son mari, n'est pas inactif. Il tresse une panière pour le linge. Victor est déjà couché, épuisé. Mais pour Marthe, que l'auteur appelle tendrement « notre pauvre Martoune ».
La journée n'est toujours pas finie.
Non. Elle doit encore s'occuper du rapétassage, du repassage, le travail qui ne se voit pas, qui ne se compte pas.
C'est le travail invisible, celui qui ne s'arrête jamais. La panière que tresse son mari est d'ailleurs sûrement pour la bugade, la grande lessive, qu'elle devra faire au lavoir.
Une autre corvée pour le lendemain. Le récit se termine sur une phrase d'une simplicité poignante. Vraiment, pour notre pauvre Martoune, la journée fut plutôt longue et pour le moins bien remplie. C'était autrefois.
Ou sa mère, mais parfaite. En suivant Marthe, on n'a pas seulement visité des lieux sur des cartes postales. On a vraiment pénétré dans l'intimité d'une vie, avec sa fatigue, ses routines, mais aussi toute sa richesse humaine.
C'est de la micro-histoire à son meilleur.
Totalement.
Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée? Pour moi, c'est d'abord la force d'une reconstitution comme celle-ci. Ça nous en apprend autant, sinon plus, sur la vie des gens qu'un grand livre d'histoire. Et puis, il y a l'importance de ce patrimoine linguistique, ces mots occitans qui donnent toute sa couleur au récit.
Et puis, il y a le pouvoir de ces objets, ces simples cartes postales, ce ne sont pas juste des images. Entre les mains de quelqu'un comme Pierre Costecalde, elles deviennent de véritables fenêtres sur le passé.
Au final, on se rend compte qu'une seule journée ordinaire, racontée avec les bons détails, avec du cœur, peut en dire plus long que bien des analyses.
Absolument. Et ça amène à une question pour nous, pour l'avenir. Cette journée millavoise, on a pu la reconstituer grâce à des traces matérielles tangibles, des cartes postales en papier. Mais nous, quelles traces de nos vies quotidiennes est-ce qu'on laissera? Nos milliers de photos numériques, souvent désordonnées, immatérielles, stockées sur des clouds. Est-ce qu'elles permettront un jour à quelqu'un de reconstituer une de nos journées avec autant de saveur et d'humanité?